Et à tous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois dans un café littéraire en cette édition 2010. On va donc parler des vampires, puisqu'il semblerait que les vampires soient de retour. C'est vrai qu'on en voit beaucoup au cinéma, à la télévision, en littérature également, dans des genres assez différents en plus. On va pouvoir vérifier ça tout de suite. Et puis pour en parler, on va avoir des auteurs. J'espère qu'Edouard Brazet, qui lui est l'auteur d'un traité de vampirologie, va en plus pouvoir nous éclairer sur... éventuellement ce retour, et puis sur vraiment j'allais dire le côté universitaire des vampires. Et puis deux auteurs avec nous, Sir Cédric, le coup de cœur 2010 pour De fièvre et de sang, où on va justement parler là aussi d'un vampire un peu particulier d'ailleurs. Ce sera peut-être une des questions qu'il faudra poser, est-ce que vraiment on est en face d'un vampire ou pas. Et puis Johan Elliot, qui vient représenter en quelque sorte un auteur qui nous a fait un petit peu faux bon, qui s'appelle Wen Barrow, auteur de Blood Silver, Grand Prix de l'Imaginaire en 2008, qui vient de sortir en poche, et dont vous êtes l'un des traducteurs.
Le co-traducteur avec Xavier Moméjean, voilà, pour révéler une partie de la vérité.
Avec là aussi des vampires, alors à la fois dans un rôle particulier, et puis surtout avec une image, quand on lit le livre, on sort avec un regard presque contrasté finalement sur ces vampires.
Tout à fait, parce que nos vampires, en fait, donc, ils sont originellement des broucolaques arrivant d'Europe centrale et qui ont accompagné, comme chacun le sait, les pères pèlerins fondateurs des futurs États-Unis d'Amérique. Finalement, sont, je dirais, des gens comme les autres qui cherchent à s'intégrer. L'intégration est un grand thème à la mode actuellement. C'était déjà le cas au XVIIe siècle. Et dans ce livre, Wen Barrow retrace un petit peu toute l'histoire de la construction de ces États-Unis, donc du débarquement des fondateurs jusqu'au début du XXe siècle, en montrant comment les familles originelles de broucolac, qui sont devenues les Brooks en anglais dans le texte, en américain, ont réussi finalement à trouver, après moult difficultés, leur place dans ce vaste territoire.
Qui n'est pas n'importe laquelle, mais on ne va pas tout révéler non plus, mais c'est vrai que la surprise est assez étonnante. Blood Silver, on comprend bien l'aspect, il y a le sang, bon ça je pense que tout le monde a bien compris d'où ça venait, et puis Silver, l'argent, parce que c'est aussi un peu, j'allais dire, le nerf de la guerre finalement, cet argent.
Et oui, parce que bon, comme
chaque... Argent métal, hein,
comme chacun sait, voilà, l'argent, le minerai, le métal, ces brocolaques étant effectivement sensibles, le contact de l'argent générant une maladie du sang et puis risquant de faire, je ne trouve plus mes mots, risquant de répandre une épidémie fatale dans la population brocolac, ceux-ci se sont très vite organisés dès le XVIIIe siècle en un immense convoi qui a parcouru les différents États et l'Ouest encore sauvage pour faire main basse sur la plupart de ce minerai et le protéger, le mettre à l'abri, afin également de se protéger eux-mêmes. Donc une partie, je dirais, de l'économie de ces États-Unis-là ne s'est pas bâtie finalement sur la valeur de l'or, mais plutôt de l'argent.
Cédric, dans De fièvre et de sang, on a là un vampire. On a là un vampire, justement, c'est la question.
À mes yeux, oui. Mais en fait, j'avais envie d'écrire un livre vampirique. Donc j'ai regroupé un petit peu tout ce qui fait les mythes de vampires, en passant par le folklore des loups, les mythes d'As, la magie des miroirs, le besoin de sang pour satisfaire aussi les dieux et accéder à une immortalité. Et la peur de la maladie, de la vieillesse, de la corruption physique et cette recherche d'éternité. Donc à mes yeux, oui, c'est une forme de vampire. Et c'est en plus la forme de vampire et les rituels d'origine qui ont finalement donné le mythe du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque je m'inspire des mythes d'As, qui ont donné les rituels d'empalement, par exemple, qui ont rendu célèbre un certain Vlad Tepes Dracula. Je reprends la figure historique d'Elisabeth Báthory, enfin Erzsébet Báthory, la comtesse hongroise qui est connue pour avoir massacré des centaines de jeunes filles pour se baigner dans leur sang en espérant acquérir ainsi la jeunesse éternelle.
Et qui fait l'objet d'un film récemment par Julie Delpy, hein, donc on est bien dans le retour des vampires.
Voilà,
effectivement.
Tout à fait. En revanche, c'est pas forcément un vampirisme attendu ou classique que j'ai essayé de faire.
Parce qu'on parle bien d'un être vivant.
Tout à fait.
contrairement aux Brooks qui sont eux bien des non-vivants ou des morts-vivants. Enfin voilà, c'est. Mais on est vraiment sur un personnage vivant. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière justement d'aborder à la fois la construction du personnage de ce vampire et puis dans la manière dont l'entourage ou tous ceux qui vont être mêlés à cette affaire finalement réagissent?
Pas vraiment, parce que pour moi, voilà, le vampire, c'est une façon d'aborder le tueur. C'est un folklore qu'on connaît bien aussi, au travers des médias, au travers de toutes les histoires qu'on a lues depuis longtemps maintenant, et qui sont en permanente mutation. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'aborder ces thèmes, mais pas de manière directe. Donc on n'est pas dans le vampire, voilà, on n'est pas dans l'immortel classique.
On n'est pas dans l'ail, le crucifix, on n'est pas du
pas
tout
du
dans
tout.
Cette partie-là.
Pas du tout.
Et justement, ça crée en plus quelque chose qui est formidable, c'est que ça devient, alors évidemment un roman fantastique, mais ça devient du coup un vrai thriller aussi.
C'était l'envie à la base de construire le livre sous forme de thriller, avec un langage de thriller, avec un début, enfin le livre commence presque comme une fin de thriller classique, avec une situation de crise, et j'avais vraiment envie de développer des personnages de flics, d'explorer un petit peu leur personnalité, leur passé, leurs problématiques personnelles, avant même de parler d'histoire de vampires. C'est pour ça que la narration est très, très typée thriller.
Il y a un point commun entre les deux livres qu'on vient d'évoquer, c'est la question de la maladie.
Bien oui, parce que comme je le disais tantôt, le grand problème de cette famille originale qui va essaimer dans tous les territoires des États-Unis, c'est de pouvoir faire face à cette sorte de malédiction et cette sorte d'atavisme qui fait qu'ils sont très sensibles aux minerais. Et avec l'évolution des recherches dans le domaine médical, etc., de pouvoir comprendre déjà ce dont ils sont victimes, et ils y parviendront finalement au 19e siècle, et trouver le moyen de s'adapter pour faire face à la maladie, effectivement. Et ils auront la chance de rencontrer certains chercheurs, dont j'ai oublié les noms, qui vont pouvoir mettre un nom sur cette maladie, sur son fonctionnement. Et Wayne Barrow cite même à un moment un rapport médical à la toute fin du 19e siècle qui réussit enfin à comprendre quel est ce phénomène étrange qui peut empoisonner le sang de ces brocolaques.
Et alors, même chose, on a à la fois le tueur et la policière qui la poursuit, toutes les deux, finalement, ont comme point commun c'est une maladie, enfin, pas la même en tout cas, hein, mais d'être malades toutes les deux.
Tout à fait. Moi, c'est vrai que je me suis amusé à rattacher ce problème de vampirisme à une maladie qui existe, enfin, que j'ai décrite de manière légèrement différente. J'ai appelé ça le syndrome, enfin, la maladie de Mathusalem, qui est un petit clin d'œil aussi au film, enfin, à Blade Runner, qui est la progéria, effectivement, qui est une maladie qui fait que le corps vieillit plus vite qu'il devrait, et qui est terrible. Et c'est vrai que moi, à la base, je suis terrifié par la maladie en général, le fait que la corruption du corps, le fait de ne pas contrôler ce genre de choses. Donc ça revient régulièrement dans tout ce que je fais, et notamment dans mon personnage principal, qui est une enquêtrice, qui est une commandante de police de la brigade criminelle du Quai des Orfèvres, donc à Paris, qui est albinos, et qui a aussi cette particularité physique-là d'avoir une dépigmentation qui la classe par rapport aux gens dans la place du monstre aussi. Donc c'est un petit peu un monstre qui chasse les monstres, puisqu'elle traque vraiment les tueurs en série, et qui a bâti des barrières autour d'elle pour se protéger, parce qu'elle-même a un problème social assez évident.
Et puis elle a une histoire aussi.
Maladie. En plus.
C'est-à-dire qu'elle cumule vraiment. Elle a,
c'est
elle
difficile
a une vie
de tout dévoiler, en fait. C'est très difficile, parce que ça participe de l'intrigue du thriller.
Faut tout découvrir, effectivement, au fur et à mesure. Pour revenir au retour vraiment des vampires, quand on pose ce thème en disant les vampires sont de retour, est-ce que pour toi c'est une impression? Est-ce qu'il y a vraiment un retour, ou est-ce que c'est un retour d'abord avant tout médiatique?
Je pense que les vampires ont toujours été là. Donc à l'heure actuelle, il y a un succès phénoménal qui est lié au livre et ensuite au film Twilight. Donc on reparle des vampires, il y a des séries télé qui...
Il y a True Blood aussi en série télé.
True Blood qui est excellent et que les gens qui n'ont pas vu cette série télé qui s'appelle True Blood, je les encourage vivement à la découvrir parce que c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle.
Sur NT1, sur la TNT si vous avez la TNT.
Mais c'est vrai que les vampires ont fasciné depuis le début, depuis les premières histoires qu'on raconte.
Et puis True Blood et puis donc Twilight, bon, effectivement, on connaissent des succès phénoménaux et complètement mérités pour la série. Mais la thématique...
Qui est meilleure à la série Elitard, d'ailleurs, en plus.
Mais la thématique a toujours été là dans ces milieux divertissement. On peut citer, John Carpenter a fait un vampire, je trouve, très bien, il y a une dizaine d'années, avec James Wood en chasseur de vampires. Un des premiers films de Catherine Bigelow, qui a signé l'excellent Des mineurs il y a peu longtemps, aux frontières de l'aube, je trouve très magnifique, je trouve c'est le plus beau, personnellement, un des plus beaux films de vampires qu'il y a une quinzaine d'années, sur des films qui sont passés très inaperçus. Mais voilà, ils ont toujours été là. Et le vampire a toujours été une figure incontournable.
Mais en parlant de ça, moi, il y a un film qui a changé ma vie, mais littéralement, parce que je l'ai vu quand j'étais ado, mais le film avec Catherine Deneuve et Susan Sarandon et David Bowie, Les Prédateurs, début 80, qui a pas eu un succès monumental,
non.
Ni en salle, ni après en vidéo. C'est pour moi un film qu'il faut voir, quoi. Que je revois régulièrement, presque une fois par mois, et il y a toujours cet effet absolument hypnotique dedans. Ça n'a pas pris une ride, quoi.
Alors, on a bien compris qu'avec ces vampires, on est à la fois dans le mythe, mais on est aussi finalement dans une forme de réalité, parce que ces mythes, ils sont bien venus de quelque part, ils ont bien paru, ils ne sont pas venus comme ça en claquant des doigts.
Ah, ça, oui. Alors là, oui, non, je dois avouer que je ne sais pas forcément le mieux placé.
C'est là qu'Edouard Brazet nous aurait bien aidé.
Pour en parler. Pour le coup, on en avait normalement un spécialiste de la question historique du mythe, parce que.
Où est-il ?
Là, bon.
Si quelqu'un a vu Edouard Brazet,
peut
nous aider.
Si quelqu'un peut appeler Edouard Brazet. Tu parlais de Vlad Tepes bon, tout à l'heure, effectivement. Donc, la figure première originelle qui a donné naissance au Dracula le plus, presque le plus caricatural qu'on peut connaître. Bon, Vlad Tepes a effectivement existé au XIVe ou XVe siècle. Je n'ai pas de date précise en tête. L'empaleur, c'est celui qui défendait son fief contre les invasions des Turcs à l'époque, effectivement, et dont la cruauté et l'aspect sanguinaire auraient été auraient tellement marqué les esprits qu'il est la figure originelle du vampire. Voilà ce que j'en sais. Mais
il empalait des gens sur des champs entiers, donc pour
voilà,
marquer les esprits.
On peut comprendre qu'effectivement, ça marquait quelque chose.
Et il a fini la tête tranchée, exposée, ça devait être à Constantinople, sur les remparts.
Sauf que l'Europe n'est pas le seul lieu où justement il y avait toujours cette présence du sang, comme un peu justement comme on le voit dans De fièvre et de sang, comme force vitale.
Tout à fait, mais je pense que ça vient vraiment de l'être humain, de notre imaginaire, des premiers temps de l'espèce humaine, quand les êtres humains ont découvert que quand ils perdaient du sang, ils mouraient, et quand ils tuaient des bêtes sauvages et qu'ils buvaient au départ leur sang, ils mangeaient leur chair, ils restaient en vie. Donc c'est vraiment ancré dans nos gènes, et les premiers vampires d'ailleurs de l'humanité sont féminins, c'est pas pour rien, puisque déjà à l'époque préhistorique, les gens devaient... se rendre compte qu'à une période de leur vie, les femmes perdent du sang et restent en vie. Il y avait ce mystère aussi lié au sang, à la vie, qui a fait que les premiers vampires des histoires sont féminins. Ou même les sorcières vampires de l'Antiquité, que sont Circé, par exemple, ou Astarté. Il y a ce rapport-là qui est très important et qui petit à petit a évolué au fil des mythologies et puis des civilisations et qui est resté toujours présent jusqu'à aujourd'hui. Ça a peut-être évolué aussi, c'est devenu le tueur en série.
D'ailleurs, il y a un des personnages qui le dit dans le livre, qui fait la comparaison, le lien finalement, en disant qu'aujourd'hui finalement le tueur en série a remplacé un peu le vampire.
Ça a remplacé le vampire.
On a plus peur de croiser un tueur en série dans la rue qu'un vampire.
Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'image du vampire évolue. C'est-à-dire que ça reste le même personnage, mais au Moyen-Âge où il faisait vraiment peur, C'était le mal, c'était le monstre qui se levait, enfin la définition classique quoi, du mort-vivant qui se lève de sa tombe pour venir sucer le sang des vivants. À l'époque moderne, il y a eu, grâce à Anne Rice notamment, il y a eu une nouvelle façon d'aborder la chose, parce que nos rêves changent, nos fantasmes changent, et la peur devient fascination et devient aussi, à une époque qui est la nôtre, où certaines valeurs ont changé, enfin les jeunes ont des pratiques sexuelles qu'ils n'avaient pas avant, il y a des, par rapport à la rébellion et à la transgression, les codes ont changé, et du coup le vampire, qui est toujours l'image aussi de la transgression, change et devient peut-être aussi le garant de la conservation de certaines anciennes valeurs, c'est dans Twilight, mais qui est aussi une façon de transgresser notre quotidien.
Comme si le vampire cherchait à s'intégrer à la société qui l'entoure. Ou à créer sa propre société.
Non, je pense que c'est vraiment la transgression. Le vampire, c'est la transgression. C'est nous, c'est l'ange aussi. Enfin, pour moi, le vampire et l'ange sont vraiment le même personnage. C'est-à-dire que c'est nous transcendés, au-delà de la vie, au-delà de la morale. Enfin, le vampire, c'est le... autant la religion chrétienne nous promet une vie éternelle au-delà du corps, enfin, la vie éternelle de l'âme au-delà du corps, autant le vampire, qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle du corps sans âme. Donc c'est vraiment c'est le blasphème absolu. Et à l'heure actuelle, c'est en train de muter vers toujours une transgression, mais différente.
Et en même temps, dans l'Eucharistie, on boit le sang du Christ.
Ouais, c'est le Christ est le premier vampire.
Alors, quand je parlais de sociabilisation, c'est un peu le cas dans Blood Silver. Finalement, c'est Brooks, il ne demande rien à personne, d'une certaine manière en tout cas.
À personne, non, mais à cette nation qui est en train de naître, donc les États-Unis, ils demandent simplement qu'on leur laisse une place.
Ils sont des bannis comme les autres de tous ceux qui sont arrivés dans les bateaux.
De toute manière, comme tous les gens qui effectivement sont arrivés pour créer cette nouvelle nation, de qui s'agissait-il ? Des gens dont on n'acceptait pas la religion au départ, ensuite des gens dont on n'acceptait pas le mode de vie, voilà. Enfin, bref,
les idées politiques, la situation
des
sociale.
Des parias de manière générale, effectivement, alors... Les vampires sont la figure presque ultime du paria, effectivement, et donc ils demandent à Judith qu'on reconnaisse cette différence. Eux-mêmes sont prêts à faire les efforts qu'il faut, effectivement, pour bien peut-être laisser de côté un certain mode de vie qui peut être préjudiciable aux humains de base. Certes, comme on le voit dans les premiers temps, dans les premiers siècles de cette rude cohabitation tout de même avec les humains classiques, et au terme, ben, ils y réussissent, puisqu'ils réussissent à obtenir leur propre état, effectivement, leur propre ville, etc., et à cohabiter au prix de grands efforts eux-mêmes, puisqu'effectivement, il faut qu'ils renoncent à beaucoup de choses. Mais quelque part, c'est presque, je dirais, la définition de la construction de ces États-Unis. On renonce, chaque communauté a dû renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir cohabiter avec les autres.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, à chaque épisode qui met en scène un événement historique de la construction de l'Amérique ou un des personnages, j'allais dire presque de la légende américaine, on se retrouve avec vraiment des contrastes par rapport à ce que l'on connaît, je vais dire, habituellement.
Hein. Oui, parce que alors, la plupart des personnages du livre sont effectivement des personnages historiques qui ont réellement existé, qui appartiennent pour la plupart alors à la légende de l'Ouest, on va dire, puisqu'on retrouve autant Billy the Kid que les frères Dalton, etc.
Les vrais. Hein.
Les vrais frères Dalton, pas ceux effectivement de Lucky Luke, encore que. Mais non, les vrais frères Dalton, dont par exemple le survivant du gang, Emmett Dalton, qu'on trouve plutôt vers la fin du livre, qui a lui-même contribué à reconstruire la légende de l'Ouest, puisque à la fin de sa vie, dans les années 1910-1920, il était devenu le conseiller des premiers cinéastes d'Hollywood qui ont commencé à construire la légende du western. On le retrouve à ce moment-là, par exemple. Donc on retrouve comme ça toutes les grandes figures qu'on croit connaître de l'Ouest, Buffalo Bill, etc., mais les véritables personnages. Et sachant que la plupart de ceux-ci jouent un rôle différent que celui qu'ils ont joué dans notre réalité, puisque ils forment une sorte de confrérie de chasseurs de vampires, de chasseurs de Brooks, initialement, puisque... Comme je disais, la cohabitation dans les premiers temps se passe quand même assez mal. Il faut attendre la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle pour qu'enfin la nation américaine fasse au brocolac la, la place qu'il demande. Et donc, pendant en gros, tout au long, enfin, principalement tout au long du 19e siècle, qui est quand même le siècle qui est plus mis en avant dans le livre, Billy le Kid, les frères Dalton, etc., sont également des. Enfin, sont basiquement des chasseurs de vampires, effectivement.
Et donc, finalement, ils sont du bon côté cette fois-ci, en quelque sorte, entre guillemets. Si tant est qu'il y a un bon côté.
Le bon côté qui devient très vite le mauvais côté, puisqu'ils restent fidèles eux-mêmes, c'est-à-dire, bon, ils restent les crapules qu'ils ont quand même été en réalité, soyons justes, sauf qu'ils pensent peut-être servir une cause à ce moment-là. Mais très vite, on s'aperçoit que, est-ce que cette cause est vraiment bonne ? Non, puisque, à nouveau, voilà, c'est pourquoi là ont le droit d'être là. Puisque eux-mêmes font les efforts nécessaires à cette intégration.
Alors justement, Cédric, c'est un peu le cas aussi dans De Fièvre et de Sang. C'est-à-dire qu'on est dans un personnage qui cherche, dans les deux d'ailleurs, que ce soit le flic ou le tueur, on est dans des personnages qui, d'une certaine manière, cherchent à être, par tous les moyens, normaux, si on peut dire.
Ben c'est, oui, c'est un thème, j'ai l'impression que c'est aussi une problématique humaine importante. Le fait que malgré nos différences, on a tous envie d'être intégrés dans une société et que c'est jamais facile. Et que souvent, on s'impose aussi nous-mêmes des barrières. Enfin, c'est le cas de ma policière notamment. C'est elle-même, plus que les autres, qui se voit comme différente, qui se voit comme monstrueuse et qui a bâti sa vie. Bon, en plus, elle a eu des traumatismes, comme on l'a légèrement évoqué, et je ne peux pas forcément spoiler le livre. Mais elle a vécu des choses assez traumatisantes quand elle était plus jeune, qui ont fait que ça l'a isolée encore plus dans cette monstruosité, de se mettre à part de la société. Pour ce qui est son cas, d'essayer de traquer justement les déviants, les vrais monstres qui gangrènent la société et qui font que la société se gangrène de l'intérieur. Et notamment tout ce qui a trait au mal qu'on peut faire aux enfants.
Alors,
qui la touche énormément.
Il faut bien dire que les policiers, au départ, ils sont quand même dans le brouillard parce qu'ils ne savent pas vraiment après qui ils courent. Il faut dire qu'il se passe aussi des choses quand même assez particulières et que, voilà, ils sont quand même confrontés à déjà une situation qu'on ne va pas qu'on qualifierait en termes de littérature de fantastique, mais qui pour eux finalement est quelque chose surtout d'exceptionnel.
Oui, en fait, disons que le début du livre, pour en dire quelques mots, c'est oui, ce sont des jeunes femmes qui ont été retrouvées égorgées, mutilées, le visage arraché et vidées entièrement de leur sang dans une ferme en Ariège. Et donc la police essaye de comprendre ce qui a pu pousser, alors ce que les tueurs qu'ils ont arrêtés, alors ils ne savent pas si c'est vraiment eux ou pas, puisque un an après, les meurtres recommencent identiques, avec le même mode opératoire.
Est-ce qu'on pense avoir arrêté les tueurs dans un premier temps
et... Voilà, le roman débute par l'arrestation assez musclée et fait la mort de deux frères qui ont a priori commis ces atrocités. Donc la réalité n'est pas aussi simple. Et la police essaie de comprendre pourquoi des êtres humains normaux auraient commis de telles choses et ne trouvent pas de réponse.
L'intrusion du fantastique dans le thriller, c'est pour épicer encore la sauce ?
Mais c'est compliqué. Disons que ce n'est pas un choix réellement conscient, c'est quelque chose que je fais qui sort de cette manière-là, qui prend cette forme-là. Je suis un grand lecteur de thrillers, je suis un amateur d'imaginaire au sens large, et il se trouve que quand j'écris, j'ai tendance à mélanger toutes mes influences, et ça donne ce mélange de romans noirs, de policiers et de surnaturels. Mais c'est pas réfléchi avant.
Avec aussi des scènes extrêmement spectaculaires. Il y aura un café littéraire d'ailleurs, je crois, sur la question. Mais on est vraiment dans ce qu'on appelle un page-turner. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de comprendre, nous aussi, finalement, lecteurs.
Moi, j'explique ça en évoquant le fait que je suis donc d'une jeune... entre guillemets génération qui a été nourrie d'audiovisuel essentiellement, donc bon, je suis un très grand lecteur évidemment à la base, donc mes racines littéraires c'est la littérature classique, c'est Victor Hugo, c'est Jules Verne, c'est les romans d'aventure, c'est Bob Moran, donc c'est la littérature de divertissement. Mais à cela s'est ajouté le fait que j'ai dévoré toute ma vie des séries télé, des films d'Hollywood, avec un découpage qui est totalement nouveau. Il y a un langage, et puis aujourd'hui il y a même Internet qui est arrivé après, donc on est abreuvé de références multimédia qui n'était pas le cas des auteurs classiques, qui avaient uniquement la forme romanesque comme modèle de référence, alors qu'aujourd'hui on s'inspire de la musique, du découpage donc cinématographique, du rythme aussi des médias en général, et ça donne des choses beaucoup plus nerveuses, ça donne le thriller en général, parce que finalement le thriller aujourd'hui c'est ça, c'est la somme de toutes ces influences, et également le fantastique, puisque l'imaginaire a une place importante dans ces médias, dans l'image, dans la bande dessinée notamment, les jeux vidéo également. Donc moi je me place voilà, comme réceptacle un petit peu de tous ces médias-là.
Et au sein d'une génération d'auteurs français qui justement a commencé aussi à assimiler ça, même si ça a été parfois assez long.
J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération en fait, dont on fait partie.
Voilà, je vais tout à fait rebondir là-dessus. Je pense qu'on appartient à cette même génération.
Puis les jeux de rôle hein, aussi.
Et on pourra citer également la plupart de nos autres collègues qui seront ici, je ne sais pas, de Fabrice Collin, Christophe Lambert, Thomas Day, etc. Oui, on est tout autant nourri effectivement de lectures classiques, Hugo, Dumas, enfin ceux qui ont posé, je dirais, les bases de ces romans que nous aimons pratiquer maintenant, mais également, voilà, assez tôt, on a tous été nourris par la télévision et la vidéo déjà à l'époque. Et oui.
Et le cinéma, parce que c'est un guide du western absolument
voilà,
formidable,
dire,
Blood Silver.
Voilà, Blood Silver est vraiment partie de l'idée de. À titre personnel, et Xavier Moméjean pour la même chose, nous sommes des fans de western. Qu'il s'agisse de l'époque classique même du western tel qu'il s'est construit dans les années 30 et 40 jusqu'au néo-western, spaghetti ou autre, peu importe, enfin jusqu'à Impitoyable de Clint Eastwood, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, effectivement, et on a voulu remettre tout ça.
C'est ça qu'il y a la reconstitution de Quai Coral, par exemple, qui est absolument hallucinante.
Mais qui est également basée sur. Avec des recherches historiques, sans m'avancer non plus, parce qu'il ne s'agit certes pas d'un roman historique, vous l'avez compris, mais je crois que quand
c'est
on décrit
le
règlement de compte d'Hockey Corral, je crois que c'est vraiment ça doit être assez proche de ce qui s'est passé, exceptons l'apparition du vampire. Mais pour le reste, je vous garantis que l'attaque de Coffeyville de la banque de Coffeyville par les frères Dalton, on allait à la source également.
Et l'incroyable rencontre, un peu l'alliance de la carpe et du lapin entre l'auteur de Ben Hur et Billy the Kid, aussi avéré.
Et là, je dois rendre à César ce qui appartient à Xavier Moméjean, parce que lui a vraiment trouvé le si vous voulez vraiment excepté la part du fantastique, je pense que tout le reste à 99% est avéré. Donc effectivement, il se trouve que Billy the Kid avait vraiment rencontré à un moment où, avant même d'amorcer sa carrière telle qu'on la connaît, a vraiment rencontré l'auteur. Oui,
Et alors que c'était le seul livre en plus qu'il avait lu.
Et c'était le seul livre qu'il avait lu et qu'il avait vraiment très impressionné. Alors, de là à dire qu'il a orienté sa carrière de bandit, de tueur, je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, la rencontre telle qu'elle est décrite, est avérée.
Alors ces vampires, donc on l'a dit, petit à petit, ils avancent, ils essayent de trouver un endroit, ils essayent aussi finalement de s'améliorer, si on peut dire, ou en tout cas de se donner une image un peu plus lisse par rapport aux gens qui les entourent.
De s'adapter. Alors, au cours des siècles, ils comprennent bien, enfin ils font, on appellerait ça aujourd'hui un travail sur eux-mêmes, ils comprennent bien les raisons pour lesquelles effectivement on les a chassés d'Europe. Ce qu'il représentait dans l'esprit des humains classiques. Et donc, effectivement, ils font un vrai effort, je veux dire, pour lutter contre leur nature profonde, etc. Et ils réussissent, grâce également aux différents progrès techniques qui arrivent, ils réussissent effectivement cette adaptation. Oui.
Et est-ce que l'homme, lui, il arrive à faire cette adaptation?
Et alors, justement, de l'autre côté, l'adaptation est tout aussi difficile, puisque, comme je disais, la plupart des grandes figures de l'Ouest qui sont au départ des chasseurs de vampires, il faut aussi que l'espèce humaine elle-même comprenne ce contre quoi elle lutte et accepte la part sombre de ces créatures. Chacun est obligé, c'est à la fois assez banal ce que je dis, mais au niveau de la métaphore, chacun doit faire ce pas vers l'autre. C'est comme ça que se construisent des nations qui peuvent, avec tous leurs problèmes ensuite, mais au moins faire coexister des gens d'origine et de culture fondamentalement opposées.
Même si on peut se demander si ceux qui s'adaptent le mieux ne le font pas pour vraiment les bonnes raisons.
Ah,
Ils les font par intérêt, surtout en général.
Oui, bon, mais on peut pas nier également que c'est aussi là, les États-Unis sont aussi la nation qui a vu émerger, enfin surtout qui a vu se développer, bon, ce capitalisme, certaines idées. Bon, oui, l'intérêt. Parfois, et c'est ça toute la complexité du problème, c'est que parfois l'intérêt pur est peut-être le moyen d'arriver à une solution de coexistence. Donc, c'est bon.
Finalement, il n'y a que Madame Winchester qui va trouver la rédemption dans cette affaire.
Ah oui, parce que là, à nouveau, il y a tout un chapitre consacré à la veuve donc, de Monsieur Winchester, le créateur de... Et à nouveau, je garantis, donc, outre l'apparition des vampires, je garantis la véracité de tout le reste. J'ai moi-même découvert, quand on a construit ce bouquin, qu'elle a vécu dans une... Elle était attirée par tout le monde des esprits, le spiritisme, etc. Et elle a mis sa fortune colossale dans la construction d'une villa incroyable, dotée de plusieurs centaines de pièces, qui était réservée, chacune d'elles réservée aux esprits. Et voilà, effectivement. Et.
Parce que son mari qui était mort lui avait demandé. Hein.
Voilà, c'était ça. C'était une, je crois, où, j'ai plus les détails en tête, j'avoue, mais c'était une des volontés testamentaires, effectivement, de son mari.
Et dans le livre, c'est plus que ça. C'est, elle lui parle.
J'ai plus les détails.
Elle lui parle dans une séance de spiritisme, oui, mais il lui dit que pour retrouver leur fille morte dans son jeune âge.
Oui.
Heureusement que j'ai lu les livres.
C'est ça, oui. Mais bon. Je vous avoue, wow, ce chapitre-là, c'est pas moi qui l'écris. Donc, donc, je l'ai lu pourtant, mais c'est pour ça que je l'ai moins en tête que.
C'est bien qu'on aurait dû faire venir Xavier aussi.
Bon, il va arriver, mais oui, effectivement, ils avaient perdu leur fille assez tôt dans des circonstances dramatiques, et elle a couru toute la fin de sa vie, qui a duré un certain temps, parce que ça a duré pas mal d'années. Elle a été manipulée par pas mal de charlatans aussi.
Ça, c'est une constante dans le livre aussi, les charlatans.
Ah, le charlatanisme.
Il y en a un certain nombre. Y compris un vendeur d'un étrange liquide me semble on connaît bien aujourd'hui.
Y compris, alors effectivement, alors là, on s'est amusé à faire apparaître Mark Twain, dont j'oublie le vrai nom, je suis désolé.
Samuel le prénom.
Voilà. Et effectivement, alors là, pour le coup, on lui a donné effectivement un autre destin que celui qu'il a véritablement connu, puisqu'il commence comme manager d'un. il s'amuse à construire une fausse légende de l'Ouest. Il trouve un pauvre garçon un petit peu demeuré, mais qui est un très habile tireur au revolver, et il essaye d'en faire une légende, de manière à pouvoir écrire lui-même cette légende, parce que c'est un peu un écrivain frustré dans cet univers-là, et il veut écrire la légende mais tout en la fabriquant. Donc c'est aussi la manière de montrer que...
Il finit par faire, finalement.
Comment
les événements lui réussissent plus, il finit par le faire carrément.
Et c'était la manière qu'on a choisi dans ce livre de montrer que tout ce qu'on peut connaître du 19e siècle, c'est-à-dire du western au sens large américain, est largement une part fantasmée, une part légendaire, assez loin de la réalité. C'est quelque chose qui s'est construit ensuite au 20e siècle par Hollywood, mais déjà par les feuilletonistes de l'époque.
Mais ce qui est intéressant avec vous deux, c'est que finalement, on voit qu'on peut renouveler ce genre du vampire et finalement sortir, j'allais dire, presque du cadre quasi caricatural des séries B avec Christopher Lee ou finalement de ce cadre très classique, même qu'on voit chez Polanski dans Le bal des vampires avec l'absence de reflets, là il est crucifié, etc.
Mais disons que ça, c'est l'image qu'on
c'est une
a,
l'image populaire,
classique, voilà, du vampire, mais qui est figée, qui est déjà très datée en fait, parce que déjà depuis les années 70, en fait, l'image du vampire a changé. Et même cette image-là, donc, qui est très datée des années 50-60, était nouvelle à l'époque par rapport au vampire classique qui était encore différent. Et dans toutes les civilisations du monde, on retrouve des vampires dans tous les pays et dans toutes les cultures. Et je pense que ça va continuer à se métisser, à évoluer. Mais l'idée du vampire va rester, parce que c'est finalement le reflet de qui on est quand on se regarde dans le miroir, et de toutes nos pulsions, toutes les choses qu'on n'ose pas s'avouer, tous nos rêves, quand on s'imagine autre chose qu'un être humain. Je pense qu'à l'heure actuelle même, j'ai l'impression que je parlais du thème de l'ange, parce que pour moi, le vampire et l'ange sont la même chose, mais il y a divers romans qui sont en train d'être publiés à l'heure actuelle, qui sont en train de se tourner vers le personnage de l'ange, mais c'est juste le vampire qui évolue vers ça, et qui reviendra à nouveau.
Questionnement qu'on trouvait beaucoup chez Anne Rice déjà,
oui.
dans justement ces personnages qui
c'est le besoin d'absorber de l'énergie, le besoin de se transformer, d'aller vers autre chose et de devenir qui on est. Enfin, c'est des questions profondément humaines qui ont toujours été là et qui resteront toujours, mais qui vont continuer à se métisser peut-être plus tard avec la technologie, l'informatique, pourquoi pas des vampires virtuels. Voilà, sur des questions qui ramènent toujours à qui on est, comment notre société gère ses propres problèmes, comment notre différence, on la gère et comment elle évolue et comment on la sanctionne. Parce qu'il y a toujours l'idée des chasseurs aussi de vampires qui vont essayer de traquer, des Sarkozy qui vont traquer les vampires déviants et voilà, pour les éradiquer.
De toute façon, à la base, le vampire reste celui, comme tu le rappelais, qui s'affranchit à un moment donné de toute morale, qui est aussi donc quelque part, et c'est ça qui est aussi séduisant, parce que dans son comportement... il agit assez régulièrement d'une manière qui est celle à laquelle tout le monde voudrait se référer à un moment. On a tous rêvé à un moment de s'affranchir d'un cadre, un cadre qu'on s'est imposé personnellement, le cadre que la société nous impose, peu importe, on a tous rêvé de s'en affranchir et enfin voilà, de libérer ses pulsions. Le vampire est celui qui se l'autorise par nature, et c'est pour ça qu'il restera toujours fascinant, quelle que soit la forme qu'il va adapter, effectivement, liée à la culture, liée à la société.
Et pourtant, dans le convoi, il y en a certains qui se sentent étouffés, justement, et qui cherchent à s'émanciper même de cette société vampirique.
Parce que pour le coup, on retrouve le même schéma, parce que dans les vieilles familles traditionnelles de Brocolac, il y a quand même ces règles aussi que les nouvelles générations ont envie de briser, ou du moins d'élargir, effectivement, parce que le vampire lui-même n'est pas figé dans un état donné à un moment. Il évolue, comme toute créature intelligente, et il a besoin de cette évolution également, et d'accompagner son temps, bien sûr.
Et alors, ne prends pas mal la question qui vient, mais est-ce que Twilight n'est pas une certaine prolongation de Blood Silver ?
Bonne question. Je ne le prends pas mal.
J'explique pourquoi. Oui, dans le sens où on arrive finalement dans Twilight à presque au tabou ultime, finalement, qui serait... la liaison, mixité, sociale et sexuelle, finalement, entre un vampire et une vivante.
Mais dans ce cas, oui, la réponse ne pourrait être que oui, puisqu'effectivement, on montre au long de 4 ou 5 siècles d'histoire, effectivement, que...
Ça se rapproche petit à petit, on va dire.
Le but, effectivement, je dirais presque d'arriver à une fusion, du moins à un gommage tel des différences qu'on arriverait à la fusion. Alors, on esquisse vers la fin du livre seulement la fusion ultime, qui est celle sexuelle, charnelle, etc. On l'esquisse, elle est en germe. Donc, en ce sens-là, eh bien, Twilight pourrait être la continuation, effectivement.
Sous toute réserve, évidemment.
Mais, on est d'accord. Oui.
Mais dans la thématique, ça pourrait s'imaginer. C'est pareil, il y a quand même aussi une dimension très sexuelle aussi dans le roman. Comment on peut l'expliquer, justement, cette tension qu'il peut y avoir pratiquement chez tous les personnages.
Alors, pour parler du vampire déjà, je pense qu'au cœur de la thématique du vampire, c'est le corps. Donc forcément, si on parle du
dans
corps,
son intégralité.
On va parler de... Si on parle des besoins du corps et des fantasmes du corps, la sexualité est au cœur de ça. Le sexe et la mort. Mais ça donne le vampire. Donc forcément, ça revient systématiquement. Et pour parler de mon roman, c'est vrai que tous les personnages ont cette tension physique à un moment ou à un autre, parce que ben, c'est ma façon aussi de voir notre vie. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on se différencie par rapport aux autres. C'est au cœur de toutes nos relations. Notre corps, notre apparence, le regard que les gens posent sur nous. Moi, j'ai un look assez particulier, donc je sais qu'il y a à chaque fois des a priori qui soient très positifs ou très négatifs, mais ça provoque des réactions. Et mes personnages sont en général assez typés également. On parlait de la flic albinos, donc il va de suite...
Finalement, va transgresser encore plus.
Voilà, mais même, il va y avoir une réaction. Les gens qui posent les yeux sur elle avec ses yeux rouges et ses lunettes de soleil en permanence. Les gens
compris
vont,
dire ses collègues. Hein, donc,
oui.
À la limite, ça serait normal, ça serait pratiquement la même chose parce que c'est un misogyne de base. Mais
oui,
ça
voilà,
ajoute
un collègue
encore à ça,
extrêmement
quoi.
Misogyne et en plus, elle est albinos. Donc forcément, elle, c'est pas que c'est son bouc émissaire, mais il la provoque en permanence et elle essaye de rester digne, mais c'est très dur. Et donc, il y a une scène assez amusante dans le livre. À ce sujet-là, puisque la personne en question est remise à sa place, de manière assez brutale. Hein. Et c'est des thématiques qui m'intéressent. donc que je crée de livre en livre. Dans le précédent, il y avait aussi une sorte de vampire finalement psychique, puisque c'était un enfant mi-démon, mi-être humain qui se nourrissait de la substance spirituelle des gens et qui les rendait fous. Donc je pense que c'est ce genre d'allégories ou de métaphores en tout cas fantastiques de la littérature d'imaginaire en général sont vraiment importantes pour se comprendre soi-même.
Mais tu l'as
évoqué, je les aborde.
Tu l'as évoqué déjà tout à l'heure. Est-ce que finalement c'est pas seulement le retour du vampire, mais c'est aussi cette obsession de nos sociétés modernes de l'immortalité qui
ouais,
rejaillit
voilà.
Là aussi.
Parce que c'est plus qu'un retour. Je pense que ça, le vampire, c'est pas un retour. Il a jamais quitté nos vies. Il a jamais quitté notre imaginaire. Et la société évolue de telle sorte que l'image du vampire est de plus en plus présente parce que ben, c'est les traders, les multinationales, c'est des vampires immatériels finalement, mais la thématique du vampire, elle est au cœur de nos vies au quotidien. Quoi. La télévision qui cherche de l'espace de cerveau disponible, c'est une sorte aussi de vampirisme mental. Donc moi je trouve intéressant de transposer ça en roman. Après on reste dans le divertissement le plus total, mais évidemment c'est bien régulièrement de le remettre sur la table parce que le but c'est le plaisir du lecteur et c'est le fait de s'évader totalement de nos quotidiens parce que ça n'existe pas.
Mais d'autant qu'on le rappelle, le vampire, alors c'est vrai que c'est la maladie qui accélère ce vieillissement, mais c'est un rejet du vieillissement qui est finalement un rejet qu'on voit partout dans notre société aujourd'hui.
Ah,
à la une de tous les magazines.
Ah, mais voilà, c'est une des scènes de mon roman de Fièvre et de Sang où on voit une directrice de magazine de mode, enfin un petit peu jeune, dont le sommaire est constitué de mannequins de 14 ans qui sont là pour vendre des produits anti-rides, enfin, ou anti-vieillissement. Je trouve que dans notre quotidien, on a ce surréalisme le plus total qui fait qu'il y a ce culte de la jeunesse, ce culte de la maigreur, est totalement artificiel puisque les pauvres filles sont photoshopées. Et en même temps, dans la scène que j'ai décrite, la rédactrice en chef, sachant cela, elle a 39 ans, elle va faire 40 ans, elle a quand même qu'une envie, c'est de ressembler. Alors, en sachant que c'est de l'hypocrisie totale.
Edouard, il reste quelques minutes. Vous voulez venir parler avec nous un peu? Non, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées du coup, comme vous n'étiez pas là, mais on va le faire maintenant pour finir justement.
Excusez-moi, mais j'étais en train à l'heure pour commencer. J'étais en train.
Bonjour.
Bonjour.
Salut. Alors, on a déjà bien avancé dans le sujet, mais vous êtes notre universitaire en quelque sorte.
Ah non, j'espère que non. Non, je suis pas du tout universitaire.
Non, mais vous avez quand même fait
un spécialiste des vampires.
Voilà,
parmi nous là, quand
même. Tout, non.
Alors, je vais reposer vous la thématique de ce café littéraire. C'est est-ce que les vampires sont de retour aujourd'hui pour vous, qui les connaissez bien?
Froid cassé. Alors, les vampires sont-ils de retour aujourd'hui? Alors non, les vampires ne sont pas de retour aujourd'hui.
Ils ont toujours été là.
Ils ont toujours été là. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on en parle davantage. Tout simplement parce que vous avez sans doute remarqué qu'il y a un livre, un roman qui traite de vampires, qui a été écrit par quelqu'un, une jeune débutante qui s'appelle Fascination, je crois, c'est ça? Oui, Stéphanie Meyer, il me semble retenir
ça
son nom
ça, oui.
Et je crois, il me semble qu'elle traite des vampires d'une façon qui a été bien reçue par les jeunes. Parce que enfin, ça traitait du vampirisme sous l'angle pudibon, alors que jusqu'à présent, le vampirisme
et des moins jeunes, hein, ça a été reçu,
oui, était considéré comme quelque chose de subversif, comme un aspect entre guillemets gothique, même si l'aspect gothique est très différent. Enfin, bon, disons que le vampirisme faisait partie de la culture, une certaine culture gothique, et ce culte du vampire, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est comme les fées ou comme les fantômes. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on en parle, des moments où on n'en parle plus, puis ça revient.
Est-ce qu'on n'a pas surtout une génération qui a redécouvert Roméo et Juliette, mais avec des dents un peu plus longues?
Alors voilà. En fait, ce qui est intéressant dans le phénomène fascination, etc., c'est qu'en fait, c'est un mix entre le vampire, donc avec effectivement le suceur de sang, le suceur d'énergie, et puis alors Roméo et Juliette si on veut, mais surtout un film que les plus anciens d'entre vous, est-ce qu'il y en a? Non. Donc un film qu'on n'est peut-être pas vu, c'était Love Story. Et pour moi c'est ça, c'est Love Story plus avec simplement un aspect vampirique en plus, c'est-à-dire l'amour impossible. Ou bien un peu l'attrape-cœur de Boris Vian, un peu ce côté-là, ce côté l'amour fatal. Donc l'idée est intéressante, c'est-à-dire que le vampire qui au départ, quand on regarde le Dracula, quand on regarde tout le cinéma vampirique des années 30 aux années 50-60, il y a une connotation sexuelle qui apparaît, qui n'est pas montré, sauf dans les films d'André, de Rollin, de prénom, c'est quoi déjà?
Jean,
je confonds toujours avec André Rollin, avec donc Jean Rollin. Donc, sauf dans ces films-là, qui sont des films un peu série Z, l'aspect vampirique, en fait, c'est une façon de parler du sexe sans le montrer. Et là, on parle du sexe en disant que le sexe n'est pas bon, le sexe est interdit pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il transmet le germe du vampirisme et tous les virus qui peuvent aller avec la consommation, sexuelle. Et deuxièmement, c'est que c'est pas bien d'avoir de relations sexuelles avant le mariage, ce que disent les membres de cette secte religieuse dont fait partie la dite Stéphanie Meyer. Donc en fait, ça permet d'avoir une démonstration assez intéressante, je trouve, pour montrer qu'effectivement, il faut se garder des tentations. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui d'une autre façon que celle dont on parlait avant. Donc, le vampire devient une sorte d'épreuve, d'épreuve de résister à sa propre nature. Il y a un film, on a revu récemment une série de X-Files, où il y avait une série dans laquelle il y avait un espèce de monstre, c'était pas un vampire, mais un bouffeur de cervelle. Et en fait, lui, sa nature, c'était ça, c'était bouffer de la viande, du sang, et la cervelle des gens. Et il essayait par tous les moyens de résister à cette tentation. Donc il essayait, donc il allait au gastronome anonyme, enfin pas le gastronome, enfin bon, les obèses anonymes. Enfin, quoique quand on est obèse, on n'est pas forcément anonyme, on ne passe pas inaperçu, mais enfin bon. Et donc, il faisait tout ce qu'il pouvait pour échapper à cette fatalité, mais à la fin, il se précipite sur les gens pour effectivement les dévorer. Et il finit par cette phrase avant d'être tué par le pistolet de Mulder, en disant « la nature est plus forte ». Donc la question c'est ça, c'est y a-t-il ou non une nature vampirique ? Moi je pense que oui, je ne sais pas si vous l'avez abordé.
Un petit peu, mais...
Peut-on y résister ? Alors, non. C'est la version X-Files, oui, la version meilleure.
Et donc, on est tous potentiellement des vampires ?
Alors, non. Dans l'idée, c'est qu'il y aurait une nature vampirique, il y aurait des vampires qui ont le gène du vampirisme en eux. Tout comme il y a des loups-garous. Ils sont pas. Alors, les uns sont peut-être dérivés des autres, ou bien ce sont deux clans différents. Mais il y aura en fait, parmi nous, que nous prétendons humains, il y aurait des gènes différents, c'est-à-dire que parmi nous, il y aurait des vampires, il y aurait des loups-garous, il y aurait peut-être des anges, il y aurait peut-être des fées, il y aurait peut-être des elfes, peut-être des nains. Et alors, y a-t-il des humains ? Ça, c'est moins sûr.
Mais on se regarder quand même bizarrement maintenant.
Je pense qu'on peut davantage croire aux vampires, aux fantômes, aux fées qu'aux humains en tant que tels. Moi, des humains, j'en rencontre rarement dans ma vie. Je ne sais pas si c'est pas vous. Ils sont exceptionnels dans le sens où... Pardon ? Et alors donc voilà, je pense que l'humain est plus rare que le vampire ou que ces natures surnaturelles.
Et alors un dernier mot parce qu'il va falloir qu'on laisse la place.
Et juste moi, ça me rappelle quand même quelque chose, c'est que enfin ce que tu viens de dire, c'est que cette résurgence des créatures fantastiques dans notre quotidien, donc les anges, les loups-garous, les fées, les vampires, ça a aussi donné naissance à un courant littéraire très récent qui s'appelle la bitlit. Après la chick lit, donc la littérature pour les filles, donc le journal de Bridget Jones notamment, le fait que certains auteurs ont développé, ça a commencé par des séries télé, surtout comme Charmed avec les sorcières, mais des personnes normales plongées dans des vies normales avec des problématiques de la vie de tous les jours, et souvent des jeunes femmes, doivent cohabiter avec des forces surnaturelles, que ce soit vampires, loups-garous, et doivent continuer à vivre de manière normale. Et, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle vague qui est en train d'emporter un succès phénoménal chez les lecteurs depuis quelques années. C'est très, très récent, en fait.
Et finalement, on s'affranchit, on en parlait un peu avec Johan et Cédric, on s'affranchit finalement du mythe à proprement parler, tel que tout le monde le connaît, pour arriver à de nouvelles figures, que ce soit le vampire de Cédric ou même les Brooks de
et surtout au
de
quotidien, Wendell. C'est ce qu'on retrouve. C'est, ouais. Voilà, le mélange des créatures fantastiques et des êtres humains, s'il y en a.
Alors, mythe, oui. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un mythe au départ. C'est devenu un mythe moderne. C'est peut-être un des rares mythes modernes, d'ailleurs, le vampire.
C'est Bram Stoker qui lance le mythe,
C'est Bram Stoker qui lance la figure littéraire, en tout cas. Et je pense que c'est devenu un mythe au XXe siècle. Donc, c'est rare, quand même, les mythes modernes. Généralement, on les trouve dans l'Antiquité, dans les civilisations anciennes. En revanche, il vient du folklore. Mais le folklore du vampire est complètement différent, il est presque à l'opposé de celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire le vampire du folklore, d'une part, c'est un vampire paysan, issu de peuplades un peu lointaines qui n'ont pas vraiment connu la civilisation et qui en fait est effectivement est une sorte d'être à part qui doit dévorer les autres, leur sucer le sang. Alors généralement d'ailleurs, dans la plupart de ces récits du folklore, les vampires s'en prennent aux gens de leur propre famille. Donc il y a presque un aspect d'endogamie dans le vampirisme. Et alors on le reconnaît bien sûr lorsqu'on creuse quand on ouvre le cercueil, et on le reconnaît pas du tout avec son visage qu'on a généralement aujourd'hui de vampire, c'est-à-dire un être beau, longiligne, avec des cheveux longs, bruns, avec le visage pâle, etc. Pas du tout. Il est râblé, petit, rougeau, parce qu'il ingère du sang. Il a du sang, il est très rougeau, il a du sang qui lui coule de la commissure des lèvres. Et donc, il faut... Alors après, c'est le bien sûr, c'est l'idée de planter le pieu, etc. Alors, planter le pieu, attacher les jambes et les pieds. Quand on l'enterre, quand il y a un soupçon de vampirisme, on l'enterre la face contre le sol, parce qu'évidemment, quand il veut sortir, il creuse, mais vers le sol. Donc, il y a plusieurs récits qui sont concordants dans le vampire, je dirais, folklorique, le vampire paysan, on pourrait dire. Et alors c'est drôle parce qu'effectivement, depuis Bram Stoker, depuis cette figure du comte Dracula, c'est la première fois qu'il prend des lettres de noblesse, qu'il devient un noble. Eh bien, on a un vampire, effectivement, dandy, rebelle, figure noire, solitaire, etc.
Ange et démon, même parfois, quand on pense à Lestat.
Et c'est intéressant de voir comment, c'est assez rare de voir un type, je dirais, folklorique, qui devient une mythologie moderne, qui est à l'inverse de ce qu'il était au départ.
Bah, si vous voulez en savoir plus sur la figure du vampire, vous l'aurez compris, il faut aller voir Edouard et découvrir son traité de vampirologie. Vous avez également le coup de cœur de ces Imaginales 2010, Cécire Cédric avec Deux fièvres et deux sangs. Franchement, je vous le recommande. C'est un de mes coups de cœur aussi. Bah oui, si. Et puis Blood Silver, là c'est l'édition de poche avec donc Wayne Barrow et les deux traducteurs, hein, Xavier Mauméjean et Johan Elio. Je crois qu'on en reparle demain d'ailleurs. Hein. On aura d'autres choses. Et puis alors, j'ai une dernière petite chose à vous dire pour ceux qui vraiment ont envie de pousser plus loin encore sur la question du vampire. Il y a la BMI en ce moment, BMI Épinal Golbet, il y a la possibilité de découvrir les deux premières éditions du livre que Don Calmet a consacré aux vampires, donc des pièces de collection vraiment absolument remarquables, et c'est à voir en ce moment donc à la BMI d'Épinal Golbet, là aussi pour faire pour pousser encore le sujet, mais je pense qu'on serait peut-être dans quelque chose d'assez différent, j'imagine, avec la vision de Don Calmet.
Don Calmet, il est inclus dans le livre qui n'est pas sur la table, le traité de vampirologie, mais là c'est l'original, donc effectivement. Alors il faut faire attention, si vous le consultez, je pense qu'il est protégé par des,
j'imagine,
par des vitres. Enfin, si vous pouvez le toucher, surtout faites attention parce que ce genre de ces livres interdits, ces livres un peu sulfureux, vous savez, c'est comme dans Le Nom de la Rose.
Mettez des gants.
C'est-à-dire que les pages sont empoisonnées. Effectivement, il faut éviter de les toucher, puis porter à sa bouche, parce que sinon on reçoit, alors c'est une façon pour ceux qui veulent le devenir, de recevoir le germe vampirique.
J'ai une dernière question à Joan Elliott, parce que c'est une des scènes qui m'a fait rire dans Blood Silver. Ils allaient vraiment chez le dentiste, les vampires?
Comme un des personnages récurrents est Doc Holliday, chacun sait, il était véritablement dentiste de profession, donc c'est comme ça qu'il devient ami avec un des broucolaques, un des vampires, effectivement, en réglant plus ou moins ses petits problèmes dentaires. Mais
voilà. Ils sont amenés à en avoir un peu plus que nous, visiblement.
Et hein. Ben oui, quand même, par la force des choses, par la force de leur nature. Oui, effectivement, quand un vampire commence à souffrir, probablement, ça prend aussi des proportions effectivement beaucoup plus importantes que pour un simple humain.
Bon, vous l'aurez compris, les vampires donc, ne sont pas de retour, ils ont toujours été là. Vous avez peut-être un petit peu plus attentifs, mais vous aurez compris aussi qu'ils ne sont pas forcément nos ennemis directs, mais qu'on peut peut-être justement les aider à s'intégrer dans nos sociétés. Merci beaucoup.